Chapitre 32. La source cristal. Les Indiens et les colons cajuns qui étaient venus de la Louisiane disaient tous que la source cristal était sans fond, ce qui était absurde naturellement et eux-mêmes ne devaient pas le croire. Il suffisait de mettre un masque, de faire quelques brasses, et on voyait très clairement la petite grotte sous-marine d'où sortait une eau d'une pureté incroyable, faisant onduler des algues vertes et délicates, et à travers lesquelles vous regardez les yeux du monstre. Deux cercles noirs, côte à côte, qui ne bougeaient jamais. Mais qu'est-ce que cela pouvait être d'autre? La créature tapie dans l'ombre faisait de chaque bain une aventure. Un jour, le monstre s'élancerait hors de son trou, éparpillant les poissons pour choisir des proies plus importantes. Et ni Bobby ni David n'auraient reconnu qu'il n'y avait là rien de plus dangereux qu'une bicyclette abandonnée, sans doute volée, à moitié enfouie sous les algues, à 100 mètres de fond. Ils avaient du mal à croire que c'était si profond, même après l'avoir établi sans discussion possible en y lançant une ligne plombée. Bobby, le plus âgé et le meilleur plongeur, avait fait peut-être un dixième du chemin et il avait dit que le fond paraissait toujours aussi loin. Mais maintenant que la source cristal allait révéler ses secrets, la légende du trésor confédéré était peut-être vraie après tout, malgré le mépris des historiens locaux. Et en tout cas, il se ferait bien voir du chef de la police, ce qui est toujours de très bonne politique, en récupérant quelques armes jetées là par des criminels. Le petit compresseur que Bobby avait trouvé dans la décharge du garage haletait lentement, régulièrement, après un démarrage difficile. Il ne cessait de tousser, de recracher une fumée bleue, mais semblait ne pas vouloir s'arrêter. « Et même s'il s'arrêtait, » dit Bobby. « Et puis après, si les filles du théâtre sous-marin peuvent remonter de 50 mètres sans respirateur, nous aussi, il n'y a aucun danger. » En ce cas, se dit Dave, pourquoi n'avons-nous pas dit à Ma où nous allions et pourquoi avons-nous attendu que Pa retourne au cap pour le prochain lancement de navette? Mais il n'avait pas vraiment d'inquiétude, Bobby avait toujours raison. Cela devait être merveilleux d'avoir 17 ans et de tout savoir. Mais Dave aurait tout de même préféré qu'il ne passe pas tant de temps avec cette idiote de Betty Schultz. Elle était très jolie, c'est vrai, mais bon Dieu, ce n'était qu'une fille. Et ce matin, ils avaient eu le plus grand mal à s'en débarrasser. Dave avait l'habitude de servir de cobaye, c'était son rôle de petit frère. Il ajusta son masque, enfila ses palmes et se glissa dans l'eau cristalline. Bobby lui tendit le tuyau où ils avaient scotché une vieille embouchure de tuba. Dave aspira l'air et fit la grimace.
« Un goût affreux !»«
Tu vas t'y habituer.
Plonge, mais pas plus bas que la corniche. C'est là que je commencerai à régler la pression pour qu'on ne perde pas trop d'air. Remonte quand je tirerai sur le tuyau. » Dave s'enfonça doucement sous l'eau et se trouva au pays des merveilles, dans un monde paisible, monochrome, très différent des coraux de la côte. Disparues les couleurs violentes de l'environnement marin où la vie animale et végétale se parait de toutes les teintes de l'arc-en-ciel. Il n'y avait ici que du bleu et du vert en nuances délicates et que des poissons qui ressemblaient à des poissons, non à des papillons. Il nagea lentement vers le bas, traînant son tuyau, s'arrêtant pour aspirer un chapelet de bulles chaque fois qu'il en avait envie. L'impression de liberté était si forte qu'il en oubliait presque le goût huileux et horrible qu'il avait dans la bouche. Quand il atteignit la corniche, en fait un vieux tronc d'arbre roulé par l'eau et si bien recouvert par les herbes qu'on ne le voyait plus, il s'assit et regarda autour de lui. Il pouvait voir tout l'intérieur du cratère inondé, jusqu'aux pentes vertes en face de lui, presque 100 mètres plus loin. Il n'y avait pas beaucoup de poissons, mais un banc d'éclairs argentés passa devant ses yeux comme une pluie de pièces de monnaie dans les rayons du soleil. Il y avait aussi une vieille connaissance postée, comme d'habitude, à la brèche par où les eaux de la source commençaient leur voyage vers la mer. Un petit alligator, assez grand tout de même, avait dit Bobby en souriant, il est plus grand que moi, qui se tenait verticalement, sans rien faire apparemment pour se soutenir dans l'eau, le nez à ras de la surface. Il ne l'avait jamais dérangé et il ne s'était jamais intéressé à eux. Le tuyau fut secoué avec impatience. Dave fut content de remonter. Il n'avait pas prévu qu'il ferait si froid à ces profondeurs encore inviolées, et il commençait à avoir la nausée. Mais le soleil lui fit bientôt retrouver son courage.
« Pas de problème !» dit Bobby d'un ton joyeux. « À quelle profondeur vas-tu »«
Jusqu'au fond, si j'en ai envie !»
Dave ne le prit pas au sérieux, ils savaient tous deux ce qu'était l'ivresse des profondeurs et les dangers de la décompression. Et de toute façon, le vieux tuyau de jardin ne faisait que 30 mètres, ce qui suffirait largement pour un premier essai. Comme il l'avait déjà fait tant de fois, il regarda avec admiration son grand frère adoré qui s'apprêtait à relever un nouveau défi. Faisant aussi peu de remous que les poissons qui l'entouraient, Bobby plongea dans l'univers bleuté, mystérieux. Il se retourna une fois en désignant le tuyau à grand geste, signalant clairement qu'il voulait que la pression d'air soit augmentée. Malgré l'affreuse migraine qui venait brutalement de se déclarer, Dave n'oublia pas son devoir. Il courut au vieux compresseur et ouvrit le robinet fatal au maximum, un demi pour mille d'oxyde de carbone. La dernière image qu'il garda de Bobby fut celle d'une silhouette tachetée par le soleil, pleine d'assurance, qui descendait à jamais hors de vue. La statue de cire dans le salon funéraire serait celle d'un inconnu qui n'avait rien à voir avec le véritable David Bowman.